VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Niger, pas de liberté pour Amadou. Ainsi en a décidé ce matin la cour d'appel de Niamey. L'ancien président de l'Assemblée nationale est candidat à la présidentielle du 21 février, à laquelle la Cour constitutionnelle l'a autorisé à se présenter le week-end dernier, va donc rester en prison, alors que la campagne électorale s'ouvre à la fin du mois. Rappelons que le président du Modène, Fallou Mana, a été arrêté en novembre 2015 à son retour d'exil en France. Il est poursuivi dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés depuis le Nigeria. Mali, l'enlèvement de la Suissesse Béatrice Stokely à Tombouctou a été mené par des sous-traitants d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a affirmé dimanche à l'AFP une source de sécurité malienne, alors que les autorités indiquent n'avoir aucune information sur le sort de la captive. La source ajoute que la Suissesse a probablement été exfiltrée de Tombouctou. Béatrice Stokely y réside depuis des années et elle avait déjà été enlevée en 2012. Un rapt à la suite duquel elle avait été libérée au bout d'une dizaine de jours grâce à une médiation du Burkina Faso. Au Burkina Faso même, la junte féminine, par la voix du Conseil des femmes, réclame une présence minimale de 30% dans le gouvernement et toutes les instances de décision du pays. Les femmes burkinabées l'ont fait savoir au nouveau Premier ministre Paul Kaba Tieba à travers une déclaration. On écoute les détails avec notre correspondant Ouagadougou Zoumana Ronogo.
Des noms qui étaient cités comme probables Premier ministre, il y avait celui de Rosine Koulibaly. Et du coup, les femmes du Faso nourrissaient l'intime espoir de voir enfin une dame Premier ministre du Burkina, suivant les espoirs perdus de Pélagie Blégné, elle est étudiante.
J'étais très très contente d'entendre qu'une femme va gouverner maintenant le pays. Malheureusement, c'est un homme qui est devenu Premier ministre. On fait avec en attendant notre tour. J'espère qu'un jour viendra que nous les femmes, nous allons prendre aussi le devant. Être Premier ministre, pourquoi pas présidente.
Le poste de Premier ministre étant perdu, le Conseil des femmes du Burkina, dans cette situation de tractation pour former le gouvernement, a fait une déclaration réclamative, suivant le contenu avec Viviane Compaoré.
Nous souhaitons que dans le gouvernement, il y ait 30% de femmes. Nous souhaitons que dans toutes les institutions, il y ait 30% de femmes. Nous souhaitons que ce ratio de 30% soit respecté à tous les niveaux, pour que la voix des femmes puisse porter à tous ces niveaux-là. Le chiffre de 30%, c'est un chiffre que les Nations Unies ont proposé pour qu'un groupe spécifique ait une influence sur les décisions de ce groupe. Il faut que ce groupe spécifique-là représente au moins 30% du grand groupe.
Le CFB attend avec impatience la nomenclature de la nouvelle équipe gouvernementale et surtout nourrit l'espoir que pour les municipales à venir, les femmes auront plus de place qu'à l'Assemblée nationale, car sur 127 députés, il y a seulement 5 femmes. Zoumana Ronogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, est inquiet pour le Burundi. Le pays peut bien se diriger soit vers un génocide à la rwandaise ou une guerre civile, a affirmé M. Latsou dans une interview exclusive à Jacques Aristide au siège des Nations Unies à New York. Différents scénarios sont actuellement à l'étude, l'un tenant compte des 20 000 casques bleus à Kinshasa. Écoutons Hervé Latsou.
Je crois que chacun prend la mesure, effectivement, de la gravité des évolutions en cours au Burundi. Et dans ce contexte, le Conseil de sécurité m'a demandé de faire une planification prospective, hein, que nous avons déjà bien entamée, avec évidemment toute une série de paramètres. Est-ce que nous serions amenés à intervenir en prévention ou au contraire en réaction à des événements? Est-ce que nous serions amenés à intervenir avec le consentement du gouvernement burundais ou sans ce consentement? Est-ce que nous serions amenés à intervenir en appui à cette force de protection africaine, la Maprobu, que, comme vous le notez, le président de Nkurunziza, pour le moment, n'accepte pas? Un des paramètres pour nous, c'est évidemment la réalité, qui est que nous avons 20 000 casques bleus en RDC à 30 km de Bujumbura. Donc l'un des scénarios possibles, mais ce sera au Conseil de sécurité d'en décider, ça serait de provisoirement et dans une situation d'extrême urgence, relocaliser plusieurs bataillons de la MONUSCO pour faire face à des tâches prioritaires autour de la capitale, de l'aéroport et commencer à faire de la protection des civils en attendant qu'une force sans doute africaine prenne le relais.
Et Hervé Latsou, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. L'intégralité de cette interview sera diffusée dans Washington Forum ce jeudi 14 janvier. En Centrafrique, l'ex-premier ministre Martin Zigele, l'un des principaux candidats à la présidentielle, arrivé quatrième au premier tour du 30 décembre, exige le recomptage manuel des suffrages et dénonce un manque de transparence dans la publication des résultats, selon un communiqué de son parti, le MLPC, remis aujourd'hui à l'AFP. Le mouvement pour la libération du peuple centrafricain compte déposer à ce propos un recours devant la Cour constitutionnelle centrafricaine. Rappelons que l'un des favoris, Anicet Georges Dolegele, a terminé en première position devant l'outsider Fosquin Archange Touadéra. Les deux hommes devraient s'affronter au deuxième tour le 31 janvier, selon les résultats provisoires de l'Autorité nationale des élections. Au Tchad, le Parti démocratique et socialiste pour l'alternance a tenu son congrès extraordinaire dimanche à N'Djamena. Ce parti d'opposition entend se donner les moyens d'aborder l'élection présidentielle prévue à la mi-avril 2016. Plus de détails avec notre correspondant dans la capitale tchadienne, André Kodmajingar.
Le premier candidat à l'élection présidentielle de mi-avril 2016 au Tchad est déjà connu. Il s'agit de Malom Yoboïden Djeraki du Parti démocratique et socialiste pour l'alternance qui vient d'être investi par ses militants, composés en majorité de jeunes.
Nous, militants et militantes du PDSA, adoptant la résolution dont la ternaire suit. Messieurs Malum Yoboïde Djiraki, président national du Parti démocratique et socialiste pour l'alternance PDSA, est investi candidat du parti pour les élections présidentielles de la République du Tchad d'avril 2016.
Ancien parti allié au mouvement patriotique du salut MPS depuis 4 ans, ces militants viennent de rompre l'alliance avec le parti au pouvoir pour mauvaise foi sur le non-respect des clauses de la dite alliance et entendent conquérir le pouvoir pour une alternance démocratique apaisée. Aussitôt investi, est sûr de ses muscles pour affronter son ancien allié et autre ténor de l'opposition.
Je prends acte de votre choix et m'engage à ne point trahir la confiance que vous avez placée à moi. Votre conviction pour la cause commune que nous défendons et voir la détermination de toutes et de chacun, notre victoire aux futures consultations électorales est certaine.
En 6 ans d'existence sur l'échiquier politique, Malum Yoboïde Ndjeraki a déclaré que sa formation politique constitue la 8e force en termes de représentativité et de poids au Tchad. Car, précise-t-il, son parti dispose de 2 députés à l'Assemblée nationale et 7 conseillers dans la commune de Mungo, région du Guéra, d'où il est originaire. André Kodmajingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Au Soudan voisin, les rebelles du mouvement de libération du Soudan, SLM, ont affirmé que 4 manifestants ont été tués dimanche à Jenena, au Darfour, par les forces de sécurité. Mais les autorités locales nient qu'il y ait eu des victimes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
États-Unis maintenant. Le président Barack Obama prononcera demain soir son dernier discours sur l'état de l'Union. Ce sera comme d'habitude au Capitole devant les 2 chambres réunies du Congrès américain. Idriss Fall.
Barack Obama travaille sur ce discours depuis des semaines. Les bons chiffres de l'emploi, avec un chômage à 5% au plus bas depuis 7 ans, le rapprochement avec Cuba, l'accord sur le nucléaire iranien, le changement climatique et les efforts contre le groupe État islamique seront des moments forts de ce rendez-vous devant les 2 chambres réunies du Congrès américain. M. Obama plaidera aussi pour renforcer les contrôles sur les acheteurs d'armes à feu. La mesure qu'il a prise il y a quelques jours a provoqué la colère des républicains. Dans la loge de la première dame Michelle Obama, un siège restera vide en hommage à ceux qui sont tombés sous des balles assassines aux États-Unis. À l'exception d'une allocution en juillet pendant la convention démocrate à Philadelphie, ce pourrait être le dernier grand rendez-vous pour une grande audience en prime time. Et chaque formule de son discours sera disséquée en fin de séance, car l'élection de novembre pour désigner son successeur à la Maison-Blanche est déjà présente dans tous les esprits.
Et pour terminer, des nouvelles d'Hollywood, le western de Revenant, dans lequel Leonardo DiCaprio interprète un trappeur de légende, a été couronné des prix les plus prestigieux lors de la cérémonie des Golden Globes à Los Angeles. Meilleur film dramatique, meilleur acteur et meilleur réalisateur, le Mexicain Alejandro Iñárritu. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.